Avertissement. L'écoute de cette émission fera réaliser que Great Khali prend 2 semaines de congé ainsi qu'un taxi pour faire son entrée vers le ring. Cette balado-diffusion vous est aussi présentée par FNNet.com. FNNet.com. Nouvelles, opinions et discussions sur la lutte professionnelle. Et par FreeMusicArchive.org. De la musique gratuite. C'est avant tout de la maudite bonne musique. Vos oreilles sont propres, les amis. Vos bobettes aussi. Après la toune Skier Fuel, on monte le son.
Ce soir, on écoute la radio. C'est FN Lund qui joue là. J'suis ben content. J'peux l'écouter tout le temps sur l'internet. FN Radio Lund, c'est le fun et passionnant. Des invités électrisants. FN Radio Lund, c'est un show époustouflant. Un super kick.
Ici Max de Rat Newtown et bienvenue à FN Lutte Radio épisode 85. Tout un pay-per-view hier soir, du sang, Punk contre Jericho, un street fight incroyable, Daniel Bryan contre Sheamus, une guerre dans un match endiablé. Cette semaine à Raw, nous avons eu l'avant-goût de Over the Limit. Avec John Cena contre John Laurinaitis, avec Punk contre Daniel Bryan qui va être considéré comme peut-être un prétendant au peut-être match de l'année. Est-ce que John Laurinaitis va être capable de surpasser les performances de Vince McMahon? Pour parler de tout ça, je vous présente immédiatement mon co-animateur, Monsieur Alex Lamoureux.
Oui, quel pay-per-view de Extreme Rules hier. Je suis encore sous le choc. Un Raw un peu ordinaire, mais le pay-per-view d'hier était phénoménal.
Ouais, hein, c'était honnêtement, Alex, sur, mettons, 10, là, combien tu donnerais une note au pay-per-view?
Ah, oh, c'est un 8.5.
Ouais, moi je donnerais même un 9, puis ça me fait extrêmement du bien parce que j'étais un peu déçu du dernier WrestleMania. Fait que je veux dire, ça m'a remis un peu dans l'ambiance, là, dans le mood de la WWE, puis j'étais content de voir des rivalités bien ficelées, puis bien se terminer hier, puis écoute, ça me fait du bien en tant que fan de lutte.
Oui, d'accord, c'était... Tu sais, quand pour une fois que leur publicité, ils se trompent pas quand ils disent, tu sais, « One night only, WWE goes extreme », mais hier, c'est exactement ça qui s'est passé, puis ils ont vraiment livré la marchandise.
Là. Écoute, Alex, parlant de livrer la marchandise, à FN Lutte Radio, on essaie toujours, tu sais, d'avoir des shows et des épisodes passionnants. Et c'est ça pourquoi qu'aujourd'hui, je te présente un invité d'un soir seulement, Monsieur Marc-André Drouin. Bonsoir, Marc-André.
Bonsoir, vous allez bien tous les deux?
On va super bien,
oui,
et toi?
Super.
Ben oui, super bien. On a eu tout un show en dimanche. C'était Extreme Rules. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient est-ce qu'on mérite encore d'avoir des shows Extreme Rules dans la PG Era? Eh bien, je crois que oui. Ça a été sanglant, violent, et j'ai adoré ça. Oui,
effectivement.
Écoute, mais je pense que, juste avant qu'on continue, tu sais, je pense que la PG Era est pas mal terminée. Là. Je pense qu'on est plus PG-13, si on veut. Ils ont comme trouvé un juste milieu en n'étant pas extreme comme qu'on était dans l'Attitude Era et pas pour les enfants comme qu'on a eu dernièrement. Je pense qu'ils ont trouvé le juste milieu pour plaire à tout le monde. Je pense que pour l'instant, la formule fonctionne à merveille.
Oui, super bien. Ouais.
En fait, je me sens un peu comme quand les racoleuses sont sorties en VHS. C'est à peu près le même feeling que j'ai présentement. Mais bref, pour pas parler de ce film-là, mais autre chose. Marc-André, j'aimerais ça que tu me parles juste un peu de toi. Là. Dis-moi donc qui t'es comme fan de lutte. Là.
Ben, pour faire ça très rapidement, ben, fan de lutte, je suis depuis que je suis très jeune. Et je me souviens dans le temps, le premier WrestleMania, dans le fond, que j'ai écouté, je pense que c'est WrestleMania 11 avec Shawn Michaels contre Diesel. Uh-huh. Ben, et jusqu'en 2000. Suite à 2000, j'ai un peu arrêté ça. J'ai écouté plus la ECW en 2000-2001, juste avant qu'elle ferme, dans ce temps-là, parce que j'étais vraiment un fan de match violent, tout simplement. Là. Puis j'aimais aussi le côté high flyer de la chose, le côté haute voltige. Mm-hmm. Et en 2010, j'ai recommencé à écouter la lutte parce qu'il y a eu un Raw old school. Puis on a comme été hooké par ça, on a vu la nouvelle génération de lutteurs qu'il y avait, puis ça a pas pris deux rounds, puis on était embarqués. Moi, ce que j'aime dans la lutte, c'est vraiment le côté spectaculaire de la lutte. C'est vraiment le côté, tu peux avoir des matchs violents, des matchs technical, des matchs d'old voltige.
La diversité de la lutte.
Oui, mélangez-moi ça dans un match, là, puis vous me hookez.
OK. Bon, écoute, ben c'est bien. Je suis content que tu nous aies donné cette information. Puis plus tard, on va donner ton adresse Twitter là, pour que tu puisses communiquer avec nos fans de FN Lutte Radio. Messieurs, vous êtes prêts?
Oui.
C'est bon. OK. Je vais vous expliquer. On va faire un petit quelque chose de spécial. Je sais que j'imagine que beaucoup d'auditeurs qui veulent parler d'Extreme Rules, on va faire le premier segment. On va parler seulement du dernier Raw et SmackDown. Puis dans les analyses en profondeur, on va revenir avec Extreme Rules pour se gâter là, pendant 30 minutes puis vraiment montrer notre appréciation du dernier pay-per-view de la WWE. Mais pour l'instant, allons-y avec le premier segment de l'émission. Mesdames et messieurs, et oui, c'est les WOW! Bon, ben les gars, écoute, je vais commencer, moi, cette semaine, avec mon premier WOW. C'est la promo du début, le petit vidéo package avec John Cena, le petit vidéo. Moi, je crois qu'hier, John Cena était prêt à aller à la guerre avec Brock Lesnar. Puis je crois personnellement que le gars s'est dit, écoute, moi, là, je suis dû pour sortir une bonne performance. Là. Puis écoute, là, s'il faut que je meure sur ce ring-là, ben, je vais mourir. Je vais juste prendre le pire, la pire volée de ma vie, puis je vais encaisser tout ce que je peux encaisser, puis je vais essayer de sortir le meilleur match que je peux. Puis je crois que la promo qu'il a fait à la fin du pay-per-view était très émotive, parce que je crois que c'est vraiment qu'il a tout donné hier soir. Puis j'ai bien aimé la petite musique là, un peu irlandaise, semi-guerrier des temps anciens qu'elle a avec. J'ai trouvé que ça avait un petit aspect spécial, que ça avait beaucoup de cachet. Alors bravo à la WWE et bravo à John Cena pour sa performance à Extreme Rules.
Oui, oui, parfaitement. Cena était une belle performance hier soir, bonne promo. Ben, il a fait du mieux qu'il pouvait asseoir avec le segment, mais de manière, quand j'ai vu Tensai, je pensais que c'était pour être son adversaire. J'étais là, non! Mais finalement, contre Laurinaitis, je crois que ça peut être intéressant. On va voir ce que ça va donner.
Oui, puis Cena est en train de mettre du monde dans sa poche, je crois, là, en ce moment. Là.
Oui,
ouais, ouais, ben surtout moi de même qui n'étais pas un grand admirateur de Cena, mais depuis quelques temps, il me dérange moins. La seule chose qui me dérange, c'est un peu comme encore ce soir, tu sais, quand que c'est joke de papier de toilette puis de John Laurinaitis, ou tu sais, c'est juste ça qui me fatigue un peu, mais il est de même, tu sais. Mais quand il sort des performances comme hier soir, là, il y a n'importe quand.
Ouais, amenez-en. Mon premier wow, c'est à SmackDown, Titus O'Neil puis Darren Young. À l'extérieur du ring, les promos qu'ils font. Dans la division tag team, présentement, là, eux, il se passe pas grand-chose. Eux autres, j'espère qu'ils vont amener un autre niveau. À l'extérieur du ring, ils sont fatigants, ils sont achalants, ils sont annoying, ils sont drôles. C'est pas toujours très drôle, mais ils sont là au moins pour... Ils captivent l'attention en ce moment à ce niveau-là contre d'autres tag teams potentiels ou d'autres tag teams. J'espère voir une meilleure évolution quand même, mais pour l'instant, ça me plaît bien.
En fait, t'as raison, Marc-André. C'est vrai que moi aussi, ils m'ont surpris à SmackDown. J'étais un petit peu impressionné de les voir arriver à l'arrière-scène, puis d'être aussi confiant, puis d'être aussi enthousiaste pour faire leur promo, puis un peu insulter Yoshitatsu, puis Big Ziki. Puis écoute, moi, j'ai été impressionné un petit peu comme toi, puis je pense que ça. Écoute. Ils peuvent nous surprendre, puis sait-on jamais, peut-être que ces deux gars-là vont devenir des futurs superstars, puis écoute, tant mieux pour eux, parce que j'étais content de les voir avec un peu de charisme. Il reste peut-être d'autres choses à travailler, mais déjà là, c'est un pas dans la bonne direction.
Oui, exactement, mais vous allez voir que tantôt, un coupé dans la fourche, ces deux-là, ça se gâche un peu côté in-ring.
Moi, je vais juste enchaîner très rapidement là, avec juste un petit wow là, de même. C'est très, très niaiseux, mais moi, ça me plaît. Et écoutez, Aksana à SmackDown, la petite musique de fond quand elle arrive, moi, ça me fait penser un peu à un personnage, Le Cœur à ses raisons, qui est une télésérie, pour ceux qui ne le savent pas, pour les auditeurs européens, qui est une télésérie un petit peu à caractère absurde au Québec. Puis écoute, moi j'aime bien ça. Je trouve que, tu sais, elle a vraiment un personnage conçu. Puis juste sa petite musique en backstage, je veux dire, ça nous amène à un segment qu'on sait à quoi s'attendre. On sait qu'elle va venir cruiser, là, puis chercher le pouvoir, puis que dans le fond, elle est juste là pour manipuler le monde, parce qu'elle sait pas vraiment parler anglais. Je sais pas, moi j'aime bien ça. Puis ça me fait un petit velours, là, à ce moment-là.
Ouais, c'est vrai qu'Axana, c'est correct. Elle fun, elle me dérange pas, hein. Moi, pour, non, vraiment pas le fun à regarder. Moi, mon wow, je vais y aller avec le segment d'ouverture de Raw. J'ai trouvé ça intéressant que surtout le fait qu'il ouvre avec Brock Lesnar, Monday Night Raw starring Brock Lesnar, là, j'ai trouvé ça très drôle. Et puis la promo qu'il y a eu en Triple H et Brock, j'ai trouvé ça cool que Brock parle que Brock Lesnar est un global brand, si on veut, qui est comme qui a réussi à vendre son nom à travers le monde par lui-même et qui n'a pas besoin de personne. Peut-être que ça l'ouvre des portes contre l'autre global brand de la WWE qui est l'Undertaker pour WrestleMania 29, qui sait. Puis aussi, en même temps, j'ai bien aimé la réaction de Brock qui se demandait, qui regardait Johnny, puis il disait « C'est avec toi, j'ai signé le deal, c'est avec toi! » Puis le fait que aussi qu'il ait attaqué Triple H, Triple H a bien vendu, le fait qu'il ait comme cassé le bras à Triple H, qui est le COO de la WWE, tout le monde pense que Brock est mis à la porte, même Johnny pense qu'il ne reverra plus Brock, puis je trouve ça très, très brillant. La part de WWE d'aller dans cette direction-là envers le fait que Brock Lesnar, on le sait tout, a signé un contrat de 1 an, mais avec vraiment peu de dates. On parle d'un total de 35 selon la rumeur, parce que le contrat n'a jamais été dévoilé publiquement, mais il y aurait 35 dates jusqu'à WrestleMania 29, ce qui nous donne en moyenne de 2 à 3 apparitions par mois. Alors là, ça te donne un temps de faire quitter Brock des histoires pendant peut-être 2-3 semaines, puis tu te sauves un 2-3 dates pour les prochains mois à venir. On sait que SummerSlam s'en vient, puis je pense pas que Brock... j'aurais gaspillé une date avec Brock à Over the Limit, pas du fait que c'est pas un mauvais pay-per-view, mais j'aime mieux attendre pour plus tard cet été. Fait que je trouve que c'est très brillant de WWE d'enchaîner vers ça.
Puis en même temps, on continue à grossir le monstre qu'est Brock Lesnar. On le rend plus gros que Mark Henry, on le rend plus gros que Kane, on le rend plus quasiment plus gros que l'Undertaker. Puis tu sais, je veux dire, avec des phrases comme « Cena n'avait pas à affronter Brock Lesnar dans ces conditions-là », tu sais, on rend comme vraiment Brock une espèce de gros monstre vicieux qui veut juste vraiment... quasiment tuer les gens. Tu sais, je veux dire, c'est pas dit explicitement, mais implicitement, c'est quasiment comme si Brock voulait vraiment mettre fin au jour de quelqu'un à la WWE. Puis, je veux dire, comme tu dis, Alex, je pense que c'est bien qu'on entretienne ce monstre-là présentement. Puis, on n'est pas obligé de gaspiller ce personnage-là avec des dates à Over the Limit.
Non, parce que là, si je serais la WWE, je builderais la storyline comme pas rapidement. Tu sais, il reste 2 Raw avant le prochain pay-per-view. Fait que les 2 prochains Raw, j'aurais pas Brock Lesnar faire une apparition. J'aurais peut-être Brock faire une apparition surprise à Over the Limit, à la limite intervenir dans le match Johnny contre Cena, ou tout simplement le lendemain d'Over the Limit. Fait que comme ça, tu sauves 2 ou 3 dates.
Je suis bien d'accord avec ça. C'est parfait qu'il laisse un peu reposer sur les lignes de côté, en fait. Pour un bout.
Ouais, tout à fait.
Ben moi, je vais y aller avec mon prochain wow. J'en rajoute un nouveau. J'en rajoute à propos de Abraham Washington. Je ne sais pas où ce qu'il s'en va avec ça.
C'est bon, ça.
Présentement, je ne sais pas c'est quoi son background. Je viens de le découvrir. Mais il a tellement de charisme. Il est arrivé, il m'a tout de suite surpris. Puis il veut se monter un clan. Où est-ce que ça va mener? Je ne sais pas, mais ça s'annonce très intéressant. Surtout s'il amène des mid-carters talentueux in-ring avec lui. Ça peut donner quelque chose de gros. Selon moi, parlant de clan et tout ça, je veux juste revenir. Il y a Ziggler en ce moment, on ne sait pas vraiment où il s'en va. Peut-être que c'est intéressant pour lui de quitter Vicky et s'en aller du côté d'Abraham, ou ça serait plus intéressant qu'il est tout seul. Mais pour l'instant, Abraham, il est en train de se monter peut-être un bon petit clan de lutteurs mid-carter in-ring talentueux. J'ai bien hâte de voir où ça s'en va.
Puis j'apprécie. Je suis très curieux de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces espèces de clans-là. Parce que là, tu sais, je veux dire, Abraham Washington a commencé à consulter plusieurs lutteurs à l'arrière-scène. Tu sais, on a vu Mark Henry, on a vu Primo et Pico. Puis, tu sais, on commence à avoir de plus en plus de monde. Puis, je me demande où c'est que cela va mener. Est-ce qu'on va ramener vraiment les gérants comme dans le temps de Bobby de Brain Heenan avec des écuries carrément, là? Ouais, je t'avoue que c'est un très bon point, Marc-André, puis que je suis très curieux à savoir où c'est qu'on s'en va là-dessus.
Donc, beaucoup de charisme à Brian Washington. Il y a un bel avenir devant lui si tout se passe comme prévu pour lui.
Oui, effectivement. Sur ce, écoutez, moi, je vais enchaîner genre dans un autre... Tu sais, ça pas, c'est pas vraiment en lien, mais je veux dire, je suis content d'avoir vu The Miz ce soir qui ne parlait pas. Je veux dire, des fois, je pense que c'est important pour un lutteur de complètement partir dans le champ opposé de qu'est-ce qu'il propose à ses fans. Tu sais, je veux dire, quand que tu proposes là, ta routine là, ou ta recette, là, tu sais, un peu comme Kofi Kingston, là, tu sais, je veux dire, la même recette à chaque soir, tu sais, les mêmes petits signes, les mêmes petits gestes, les mêmes petits moves, les mêmes petits sauts et les mêmes petites mimiques avec le sourire, là, OK? Ben, Miz, ce soir, est arrivé au ring à Raw, puis il ne parlait pas. Puis généralement, là, mais c'est... Il parle tout le temps. Mais là, non. Il y avait une phase de gars concentré sur qu'est-ce qu'il avait à faire. Puis il a lutté dans le ring. Il avait moins de mimiques. Tu sais, généralement, il prend des pauses, là, puis il regarde le monde d'un air bizarre. Puis des fois, tu fais... Écoute, Mike, pousse pas ta luck, là. Tu sais, je veux dire, c'est correct que t'en fasses des mimiques, mais trop en faire, c'est comme pas assez. Fait que j'ai bien aimé que Miz ait juste lutté ce soir, qu'il allait chercher sa victoire, puis il était content de sa victoire. Puis that's it, on n'en parle plus. Moi, j'apprécie ça.
Ouais, c'est vrai que c'était différent. C'est au moins, comme pour une fois, s'il l'est fermé.
Ouais, tout à fait.
Moi, je vais y aller avec Michael Cole depuis hier.
Ouais, parlant de grand gueule.
Ouais, mais quel bon travail de Michael Cole au pay-per-view hier et ce soir. Surtout ce soir, quand Johnny a perdu complètement la carte et s'en est pris à Cena. J'ai trouvé ça très bien. Dans le fond, ce qui est comme, mais là, Johnny, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Puis tu sais, même s'il est comme heel, ben il trouve que ça n'a pas d'allure qu'est-ce que Johnny faisait ce soir. Et puis même chose pour Brock hier, s'il était du bord à Cena, même si dernièrement, Cole est plus heel que face. Fait que non, je trouve que Cole fait du très bon travail. Puis il met plus le talent en évidence comparé à ce qu'il faisait autrefois. Il se mettait plus lui en évidence. Donc je suis vraiment content que Michael Cole apporte, parce que Michael Cole a du talent. Là. Il a callé des bons matchs par le passé. Juste depuis une couple d'années, il était moins sérieux. Puis depuis quelques temps, je trouve qu'il fait du très bon travail.
Oui. J'embarque à pieds joints là-dedans. C'est vrai que Michael Cole m'a toujours achalé. Mais là, depuis quelques temps, là, il s'est calmé. Puis j'adore ça. J'adore vraiment ça. Je vais aller à mon prochain WOW. Ces temps-ci, on a vu aujourd'hui à Raw, Triple H en particulier, et la plupart des lutteurs vendent très bien les moves qui se font faire, les prises qui se font faire. Que ce soit une blessure ou un move assez violent, ils vendent très bien. C'est tout récent que je le remarque vraiment beaucoup. Mais c'est super, comme ça vend bien, mais le monde embarque plus émotionnellement dans ce qu'ils viennent de voir dans la séquence ou dans le match. Mais continue de même, les gars, puis ça va très bien.
Oui, puis je pense que c'est pas mauvais qu'on... Tu sais, je veux dire, oui, là, on s'entend que les gars de la WWE ne sont pas des acteurs professionnels non plus, mais je trouve ça quand même bien qu'on essaie de jouer le côté acteur. Tu sais, c'est pas une mauvaise chose en soi, puis ça sert à plein de choses, tu sais, comme... Qu'est-ce que tu viens de dire, Marc-André? C'est un super bon point. C'est Triple H, quand il était contre Brock Lesnar à Raw, puis qui survendait les...
Oui, exactement. Il se faisait rentrer dedans, puis c'était sauvage, mais en même temps, c'était tellement beau à voir.
Ben, c'est ça, mais c'est parce qu'il rajoute au personnage. Il met de l'emphase sur qu'est-ce que Brock Lesnar est présentement, puis c'est un gros monstre surhumain, puis on vend... c'est qu'est-ce qu'il est présentement, Brock Lesnar? C'est ça, c'est le gars le plus dévastateur de la WWE présentement. Ben, let's go, on vend comme si c'était le gars le plus destructeur de la division présentement, puis c'est parfait. Comme tu dis, c'est bien qu'on voit un peu plus de acting, là, si je peux m'exprimer ainsi, là, présentement à la WWE.
Ben oui, certainement.
Sur ce, écoute, moi, il me reste pas grand-chose. Je vais y aller avec deux petites vites. Teddy Long, je trouve qu'il fait bien ça. Tu sais, parlant de jeu d'acteur, là, il fait bien pitié. Ça lui fait bien de faire pitié. Tu sais, avec le gros name tag, là, je veux dire, j'ai un petit peu pitié de lui, puis je trouve ça cool. Tu sais, je veux dire, à la limite, écoute, c'est pas grand-chose, mais... Quand tu as une opportunité, t'apprends à la WWE. Puis présentement, ben écoute, si son personnage c'est de faire pitié puis d'avoir de l'air genre vraiment du gars qui a tout perdu puis qui va toucher le fond bientôt, ben il l'a. Ça fonctionne avec moi, j'embarque avec ça. Puis Alberto Del Rio puis Ricardo Rodriguez à SmackDown, les deux là, ils avaient faim là. Ils voulaient avoir de quoi. Ils sont arrivés dans le ring contre Daniel Bryan dans la promo du premier segment. Puis, tu sais, ils ont niaisé Daniel Bryan, puis ils ont dit « si ». Puis, tu sais, je veux dire, les deux gars, là, t'sais, ça bougeait au niveau du visage, il y avait des expressions faciales, puis les deux étaient en feu au niveau acting, puis on sentait qu'ils avaient besoin du temps de télévision, puis qu'ils étaient bien contents d'en avoir. Fait que moi, ça termine pas mal ce que j'ai pour mes « wow ». Alex, as-tu quelque chose?
Ouais, juste un petit rapidement, Yves, qui fait du très bon travail, elle s'est réinventée dans son nouveau rôle comme administratif avec Big Johnny. Je trouve qu'ils ont trouvé un très bon rôle pour elle, puis c'est divertissant et rafraîchissant en même temps. Je me suis comme un peu tanné de Yves. Depuis qu'elle a tourné heel, je trouvais que son heel turn était comme « so-so », mais là, je trouve qu'ils ont trouvé, je pense, la bonne recette.
Avec ses petites lunettes, sa petite jupe.
Ouais, monsieur.
Hein? On n'est pas déçus.
Oh my God, hein?
Qu'est-ce que t'en penses, Marc?
Moi, écoutez...
Comme Booker T dirait, oh my goodness!
Ouais, c'est de toute beauté à voir. Ben écoutez, moi j'ai juste un dernier wow, en fait, c'est très rapidement, c'est l'utilisation du Kimura, la prise de soumission UFC, qui était très bien appliquée. On parle d'aujourd'hui avec Triple H. Ça n'enlève rien à l'UFC, ça en rajoute. C'est super bien utilisé. Dans la UFC, à 75%, ça marche très bien, cette prise-là. Et là, ça a été utilisé de façon excellente. Et j'aimerais ça voir plus de ce genre de tactique-là ou de move-là qui tu souffles avec le gars. Là.
Pour rendre ça plus réaliste.
Oui, exactement.
Ben, cool, écoute. Est-ce que vous avez d'autres petits points, les boys?
Non, c'est correct.
Non, moi, c'est beau de mon.
Bon, ben, écoute, étant donné que nous avons terminé avec les wow, et oui, je vais enchaîner de manière sporadique et presque naturelle vers le deuxième segment de cette émission, chers auditeurs et auditrices, qui s'appelle Le coup de pied dans la fourche. Alors, premier coup de pied dans la fourche. Oui. Et oui, vous allez tous être abasourdis, stupéfaits. Peut-être que quelques Français qui vont faire des backflips tellement qu'ils vont être surpris. Mais mon premier coup de pied dans la fourche, c'est Daniel Bryan. Et oui, je sais les gars, là. Non, je sais que vous êtes surpris, là. Mais moi, sa promo à SmackDown, je l'ai trouvé plate. J'ai trouvé qu'il est allé là en avant, qu'il a lu son texte, puis il a fait le robot. Puis jamais, écoute, j'adore Daniel Bryan pour un paquet de raisons, mais là, c'était vraiment, ok, je lis mon texte, puis j'attends qu'Alberto Del Rio arrive, puis écoute, pour moi, t'as pas le droit de prendre une journée off, surtout après que t'es là depuis 2 ans, là, t'as pas le droit de faire le robot quand tu fais la promo, puis t'as pas le droit de lire juste ton texte dans ta tête. Pour moi, ça, c'est inacceptable, puis j'ai trouvé que des fois, Daniel Bryan, des fois, il sort un peu du personnage, puis on dirait qu'il tombe dans l'une, là, puis il fait « Ok, ben là, j'ai ça à faire, fait que je le fais. » Non, mon homme, reste dans le personnage, puis au pire, si tu manques une ou deux lignes, là, c'est pas grave. Fais juste dire ce que t'as sur le cœur par rapport à la situation, puis c'est tout. That's it.
Non, c'est vrai, je suis d'accord. Comme ce soir, on a oublié d'en parler dans nos wow, mais le fait que Bryan va affronter Punk, ça va être un excellent match au prochain pay-per-view. Puis il était comme, au lieu de le voir comme un adversaire et tout, il était comme, on dirait qu'il était content d'affronter son meilleur ami, si on veut, au prochain pay-per-view. Il n'y avait pas l'expression de quelqu'un qui était, je vais prendre ta ceinture. Il était comme, il avait le gros smile, comme si, hey, on a réussi, buddy, on va s'affronter sur pay-per-view dans la plus grosse fête au monde. On va voir ce que ça va donner. C'est peut-être l'approche qu'ils vont prendre, la WWE ici. Ils vont peut-être se servir du fait que les deux, c'est des amis. On va voir dans les prochaines semaines qui va se rendre jusqu'au pay-per-view. Mais j'ai juste trouvé ça ordinaire. Mais j'attends ce match avec impatience, par contre.
Ben oui, si tout ça se fait bien entre ces deux-là, est-ce qu'on peut s'attendre à un 5-star match?
Oh. Ah, je pense que oui. Mais moi, là, j'espère que, tu sais, je sais qu'on fait une petite parenthèse, là, mais j'espère que ce match-là va closer le pay-per-view, parce qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que CM Punk, depuis qu'il est champion, depuis les Survivor Series, n'a closé seulement que le TLC pay-per-view du mois de décembre, mais n'en a pas closé aucun. Sur un pay-per-view que John Cena contre Johnny Laurinaitis, là, de grâce, s'il vous plaît, closez pas avec ça. Là, closez avec Punk contre Bryan, ça serait...
Oh oui.
Il faut, là.
T'as raison, Alex. C'est vrai que, écoute, c'est un super bon point. C'est vrai qu'ils vont qu'ils n'ont pas fermé de pay-per-view depuis. Écoute, là, je pense que le dernier pay-per-view que Punk a fermé, je pense que c'est TLC avec John Cena. Puis pour répondre à ta question, Marc-André, moi, ça va dépendre de la storyline. Je crois que, tu sais, juste pour faire une petite parenthèse avec Extreme Rules, puis on va en parler tantôt, je crois que toutes les storylines arrivaient à des points culminants qui faisaient en sorte qu'on était tous investis émotionnellement, puis tous on attendait tous ces matchs-là avec impatience, puis ça va dépendre de la storyline qui va être construite entre Daniel Bryan et CM Punk. Puis honnêtement, là... excusez-moi, ça a mal passé dans ma gorge. Excusez-moi, chers auditeurs du stress, je me suis étouffé un petit peu. Mais honnêtement, j'ai pas le goût qu'on joue sur le best in the world. Honnêtement, là, ça me tente pas. Ça me tente pas qu'on revienne trop dans le passé avec la ROH. J'aimerais ça qu'on construise sur un autre terrain, peu importe c'est quoi. J'aimerais ça que Punk mette d'en face à Daniel Bryan, qu'il manque un petit qui, des fois, il est un peu robotique, puis que c'est juste une grosse parure.
Moi, je pense, Max, que ça va être un peu un mélange des deux. Ils vont parler du passé, puis qu'il va y avoir un peu de choke là-dedans. Ouais. Mais pour répondre à la question à Marc-André, moi, je pense que leur 5-star Classic Match, ils vont en avoir un. C'est inévitable, mais ça ne sera pas à Over the Limit.
À Mania,
ou à SummerSlam, ou au Survivor Series, à un gros pay-per-view. Big pay-per-view comme le pay-per-view qu'on vient d'avoir, qui était censé être un pay-per-view B, de série B, mais je crois qu'il était tout sauf un pay-per-view de série B, là. Mm-hmm.
Ouais.
C'était même meilleur que Survivor Series.
Ben oui.
Et d'aplomb, là.
Marc?
Ben moi, mon premier coup de pied dans la fourche, ça va être la division féminine de la E avec le match à SmackDown entre Bella et Alicia Fox. C'est un festival de botch move. Je suis plus capable de voir les filles. Ils sont pas capables de courir dans un ring. Le ring, là, il est même pas 10 pieds. Cours, calvaire, c'est facile, là. Je veux dire, puis c'est juste, ils se pitchent n'importe où. Ça regarde pas ce que ça fait. Ça fait des roll-ups, tu croches, ça regarde rien. Je pense que c'est Dustin Reynolds qui s'occupe de gérer les filles. Puis pourtant, ce gars-là, in-ring, est quand même pas pire. Je sais pas ce qu'il fait avec eux autres, là, mais là, enlevez-moi ça, je suis plus capable de voir ça.
À leur défense, Marc-André, c'est un super bon point que tu apportes. Par contre, à leur défense, puis pour l'avoir déjà vécu, là, honnêtement, ça a l'air con, là, mais quand tu te fais donner 2 minutes, t'es porté. C'est tellement plate. Bâtir un match en 2 minutes parce que tu dis ok, on a 2 minutes. Ok, ce qu'on fasse avec 2 minutes, tu sais, je veux dire, là, tu dis ok, on a 2 minutes, puis là, faut qu'on essaie de rentrer le plus de moves possible parce qu'on s'entend qu'il faut que la fin du match ait une fin. Là, tu peux pas arriver dans le ring puis tu sais, faire un Sheamus Daniel Bryan à chaque fois, c'est-à-dire, tu regardes à l'extérieur du ring puis quelqu'un qui te fait son finish après, là, tu sais, je veux dire, ok, t'as 2 minutes. Fait que là, tu essaies de rentrer des moves hyper rapides pour rentrer dans le temps pour pas faire chier le boss parce que le boss, faut qu'il ait la pause, faut qu'il ait payé ses commanditaires. Puis, tu sais, je veux dire, c'est tellement minime, tu peux pas faire grand-chose, puis c'est plate en même temps, c'est démotivant, t'arrives, tu fais comme, ok, on a 2 minutes. Tandis que quand t'as 25 minutes, tu peux prendre ton temps, là, tu peux faire en masse ce que tu veux, puis au pire, si tu manques un peu de stock à la fin, c'est pas grave, tu call go home, puis, tu sais, tu veux dire, ok, ça, il y a 2-3 spots qu'on a pas fait, mais c'est pas grave, on a quand même eu la viande du match qu'on voulait mettre sur la table, puis that's it, mais
non, 2 minutes... Je comprends, mais où ce que j'en ai, c'est monte-la la division féminine ou monte-la pas.
C'est
un ou l'autre. Là, il n'y a plus de zone grise. Là. C'est un ou l'autre. Là. Si tu l'aimes pas, garde-la pas. Là.
Ah, ça, écoute, ça, tu... Alex, tu veux rajouter de quoi là-dessus?
Non, pas vraiment. Là. On a pas mal fait le tour et j'ai aucun intérêt envers la division féminine pour l'instant.
OK, ben écoute ça, Marc-André, ça, on va en reparler peut-être dans un prochain podcast là, parce que moi aussi, je suis un peu d'accord sur toi, avec toi là-dessus sur... Si t'es pour avoir une division féminine, monte-la ou monte-la pas.
C'est ça.
On y reviendra. Parlant de monte-les ou monte-les pas, moi, c'est plus GTG. Change de style ou sac ton camp. Je veux dire, honnêtement, là, quand tu... Écoute, là, je pense que tu devrais avoir un déclic dans ta tête en tant que lutteur quand que t'es à la WWE depuis quoi, Alex? 2008?
GTG? Non, depuis 2006.
2006? Puis que t'étais encore dans
le
même gimmick. Puis là, écoute, là, c'est parce que, check, t'en as plus de match, là. T'es plus booké, là. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, toi, t'oses encore, genre, rentrer dans le vestiaire de la WWE puis mettre le même linge que tu mettais il y a 6 ans parce que tu dis, écoute, il va peut-être quelque chose qui va se passer avec ma carrière. Non, là, check, fais quelque chose. Fais n'importe quoi, mais fais quelque chose au risque de tuer ta carrière, mais fais quelque chose parce que, tu sais, je veux dire, t'avanceras pas plus, là, tu sais, je veux dire... Un changement, tant au pire, si tu te fais sacrer dehors parce que ton changement est pourri, ben écoute, ça va être déjà moins pire que présentement d'être utilisé une fois au 6 mois dans des matchs que t'es là pour te faire sacrer une volée pendant 2 minutes. Fait que écoute, GTG, là, fais quelque chose, mon homme, puis peut-être que Jack Swagger devrait faire la même affaire aussi dans ce cas-là.
Non, absolument d'accord avec ton point. Moi, je vais enchaîner avec Brodus Clay. Oh my God, je suis juste plus capable. Là, au début, c'était drôle, je trouvais ça cool. Mais là, depuis un certain temps, je trouve que c'est du pareil au même. One Swag Goal n'a pas vraiment aidé la... aider le character, si on veut, le personnage. Puis là, ce soir, qui nous sort la même routine encore, son squash match. Puis après ça, qui apporte la foule pour danser avec dans le ring. J'étais comme, oh mon Dieu, Seigneur, là, on peut passer à autre
enfants.
Chose tout de suite.
C'est des enfants.
Ouais, je comprends, mais c'est pas.
Tu peux pas détester les enfants. Oh. C'est des enfants qui avaient les yeux gros comme des 25 sous. Là,
ouais, c'est sûr, mais tu sais, ça aurait été cool qu'ils splash.
Toute la gang. Mais tu sais, parce que Brutus Clay, moi j'aime ça jusqu'à temps que la toune part. Après ça, il met le pied sur son côte, les pétards pètent. Après ça, c'est next. On passe au prochain.
FN Lutte Radio n'endosse pas les derniers commentaires d'Alex Amoureux et de Marc-André Drouin. C'est juste. FN Lutte Radio n'endosse pas les derniers commentaires d'Alex Amoureux et de Marc-André Drouin. Okay. C'est bon. Okay. On n'aura pas de poursuite ou quelque chose. C'est fait, c'est dit. Ok, mais. Je vais juste. Moi, écoute, je vais y aller avec un parlant. Ouais, tu sais, quelqu'un qui aurait dû se faire splasher. Écoute, tu parles de se faire splasher, de se faire écraser par un gros mastodonte de 450 livres. Moi, je crois que l'arbitre dans le match Jericho et Big Show mériterait que Big Show il fasse un splash, que Mark Henry fasse un splash, puis que Brodus Clay fasse un splash. Puis même, je pense que après ça, Mark Henry, Brodus Clay, puis Big Show devraient montrer tous les trois sur la troisième corde, puis faire un splash à trois. Tellement que son erreur a été idiote. Je veux dire, ça n'a pas dérangé quand même l'histoire principale du show, mais je veux dire, quand ta seule job, c'est de vérifier que Jericho gagne avant que l'horloge finisse, puis que toi, comme un imbécile, tu regardes Jericho puis tu regardes pas l'horloge au lieu de regarder les deux en même temps. Je veux dire, écoute, là, écoute, à ce niveau-là, là, en télévision, là, c'est inacceptable. Inacceptable. Je ne l'épellerai pas parce que peut-être que je vais manquer une couple de lettres, mais c'est inacceptable. Okay? Je veux dire, moi, je ne comprends pas. Puis, une chance que c'était pas Jericho qui était dû pour gagner le Beat the Clock Challenge. Une chance qu'on savait tous que c'était Daniel Bryan. Puis que la WWE s'est dit, c'est pas grave, Randy va gagner le prochain Beat the Clock. Puis après ça, Daniel Bryan va le battre. Mais écoute, j'ai trouvé que ça a enlevé un peu de momentum aussi au personnage de Jericho qui aurait pu quand même mériter une victoire. Puis d'avoir un petit moment là, de télévision parce qu'on l'aurait vu en arrière-scène en train de se demander s'il va gagner le Beat the Clock Challenge ou pas.
Je trouve ça ordinaire, moi aussi, comme F-up de la part du F.
Ouais. C'était
dormir sa Switch d'un house show, c'est correct, mais live à TV, ça passe pas.
Ouais, surtout quand
t'as ça.
Ouais, surtout quand t'es ref.
Mais moi, mon prochain coup de pied dans la fourche, c'est. Tantôt, j'en ai parlé dans mes wars au niveau de Titus O'Neil et Darren Young. In-ring, ils ont fait un move à bien setter. C'est le move final qu'il prend l'adversaire, il le lève en powerbomb et l'autre fait un coup de la corde à linge du top rope. Ils ont un move à la fin, ils le botch. On le verra plus ce move-là à cause qu'ils l'ont magané, ils l'ont scrappé. Là, à l'AE, on n'a plus le droit de faire des marteaux pilons, des pile drivers. On n'a plus le droit de faire des Dead Valley drivers. On n'a plus le droit de faire ci, faire ça. Là, c'est pas une garderie, calvaire. Il faudrait recommencer à faire des moves un peu plus de ce genre-là. Je sais que ça peut blesser des lutteurs, mais là, quand même, là, si on enlève tous les moves, il va rester quoi? Des coups de pied?
Mais le problème, c'est quand tu as deux gars qui luttent pas depuis plusieurs années, c'est ça que ça fait. Puis en plus, premièrement, Darren Young, premièrement, ça aurait dû être Titus O'Neil qui fait le coup de la corde à linge et non pas Darren Young. Parce que Titus O'Neil est le gars le plus grand. Fait que je veux dire, ce qui a fait en sorte que Darren Young, sur la deuxième corde, était comme un pris entre deux murs. Parce que Titus O'Neil était tellement gros et grand qu'il bloquait, qui bloquait un peu l'espèce d'espace qu'il y a pour aller faire le coup de la corde à linge correctement. Puis en même temps, Titus O'Neil, manquant d'expérience, n'a pas levé Yoshi Tatsu assez... haut dans les airs, en tout cas.
Ouais, je comprends ça. La seule affaire que, selon avec les politiques internes qu'on connaît un peu à l'AE, quand ils ratent des moves de ce genre-là, on a tendance à plus les revoir.
C'est sûr qu'on le verra plus. Ça, tu peux t'assurer qu'ils feront plus ce finish-là parce que Yoshi Tatsu a failli se blesser, puis ça peut nous rappeler, une espèce d'incident à la Raven et Chris Canyon avec Valiant, numéro 4 à la WCW. Oh, hey, ça, c'est sorti de loin. Ok, ouais, c'est ça. Alex?
Ouais, moi je vais y aller avec mon prochain wow qui est Ryback. Oh, regarde, c'est vraiment. Tu sais, j'ai le gars, je suis sûr qu'il peut avoir un bon personnage, là, mais Écoute, le personnage, c'est vraiment un rip-off total de Goldberg. Là, même la foule de Chicago hier arrêtait pas de crier « Goldberg, Goldberg ». Je l'ai parlé la semaine passée. Moi, je pense plus que c'est un Renegade qu'un Goldberg, mais je trouve qu'il fait même les mêmes expressions faciales que Goldberg faisait. Il se tape dans la face, pareil comme Goldberg. Je trouve que c'est quoi? T'as-tu regardé des vidéos de Goldberg, puis tu dis « Je vais faire exactement la même affaire. » Là, je trouve que le personnage va nulle part, puis il pogne pas tout non plus.
Marc-André, qu'est-ce que t'en penses de Ryback?
Hey, pour être franc, nous ici, pas qu'on l'adore, mais on l'apprécie un peu plus que vous autres, dans le sens que, oui, ça ressemble à Goldberg, mais nous autres, on aime ça voir des gars faire des power moves sur des jobbers une fois de temps en temps. Là, il y en a un petit peu trop. Il arrivera rien. Il sera jamais champion de quelque chose. Là. Il est juste là pour quelques temps, selon moi. Mais on aime ça le voir squasher des jobbers pour l'instant. C'est des moves qu'on voit pas trop souvent. Son coup de la corde à linge est d'une violence inouïe. Les gars le bombent bien, là, mais c'est une violence
inouïe. Pour le coup de la corde à linge.
Ouais, je suis d'accord aussi.
Les gars, puis j'aime bien aussi son coup de pied où le pied continue de rentrer comme dans le sol avec la tête du gars. Mais puis le thème, je l'adore. Mais ce gars-là n'ira nulle part. C'est juste là, il est là pour l'été, d'après moi. Une job d'été, d'étudiant.
Écoute, moi, la seule affaire qui me dérange avec Ryback, c'est qu'il y a deux choses. C'est premièrement, je trouve que le gars, il a de l'air. Je trouve que Skip Sheffield a de l'air stupide en Ryback. Je trouve qu'il a de l'air d'un attardé mental.
Ouais, c'est vrai.
Il a pas de l'air d'un gars intelligent. Puis pour moi, déjà là, quand un lutteur n'a pas de l'air intelligent, déjà là, il descend dans la hiérarchie. Puis déjà là, tu peux l'associer au flop. Tu sais, genre au gars de la WCW qui n'ont pas marché ou au gars de la CW qui n'ont pas marché.
Non, tu sais, quand il crie « Feed me more », là, il a l'air vraiment d'un attardé, là.
Ouais, c'est ça. Des fois, il crie « Give me more, feed me more ». Puis le fait tout qu'il utilise comme plusieurs affaires, puis en même temps, il y a le suit de RVD avec la gimmick de Goldberg avec, je sais pas, une shape... Comme, il est gros, mais il est petit. Fait que, je sais quoi, il y a comme plein d'extrêmes qui se mélangent ensemble. Je sais pas, il a juste l'air ridicule. Puis, non, mais c'est vrai que je comprends ce que tu dis. Par exemple, c'est un bon point ce que tu dis, Marc-André. C'est vrai que c'est le fun de voir démolir des jobbers, mais à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que ce gars-là va faire contre, premièrement, les bons lutteurs? Puis qu'est-ce qu'il va faire?
Rien. Hein?
C'est ça. Puis qu'est-ce qu'il va faire contre les lutteurs qui sont plus gros et plus grands avec lui? Rien. Tu sais, ce gars-là, il est comme... Il remplit aucun rôle. En tout cas, je sais pas.
Ben, c'est ça que je disais, il est là pour l'été. On le verra plus à l'automne, il sera plus là ou il va être là puis il va jobber contre Yashitatsu.
Ouais, ou Justin Gabriel. Bon, ben, ok, good. Les gars, avez-vous des derniers petits coups de pied dans la fourche en terminant?
Non, peut-être juste Tensai, là. Je trouve que... Je sais pas. Au début, c'est comme je voulais laisser une chance, mais depuis un certain temps, je trouve que il est comme à soir, j'ai trouvé que sa façon qu'il bouge, son bruit qu'il fait avec sa bouche, je sais pas, je trouve que ça manque un petit peu de manque de viande dans le dos de l'os.
Ouais. Ben, il y a aucun sérieux dans ce personnage-là. Il fait rire de la foule, rit de lui totalement. Puis comme je disais, j'ai comme l'impression, même backstage, ça doit rire de lui, ça marche juste.
Pas rien que ça, qu'est-ce que je trouve plate là-dedans, c'est que c'est comme si la WWE, ils sont frustrés parce qu'on veut pas embarquer, puis ils continuent à nous le donner. Non, vous allez l'accepter, c'est-tu clair, vous allez l'accepter. C'est
on a besoin.
Ouais, ils nous l'enfoncent dans la gorge.
Exactement, ils sont comme frustrés de notre réaction. Ils ne prennent pas, fait qu'ils vont nous pitcher dans la gorge jusqu'à temps qu'ils fassent « Bon, ben, OK, c'est bon, on a compris. » Puis dans à peu près un mois, il va perdre contre Kofi. Là,
ouais, puis j'ai bien compris. Je pense que quand dans les house shows, dans les live shows, ils enlèvent les pancartes du monde qui ont des pancartes « Albert Waitrain », je pense.
Ouais.
J'ai bien
ouais.
compris. Ben, boy, c'est...
C'est ça, comme c'est qu'on dit en anglais, hein? Il nous le chauffe vraiment dans our throat. Là, ah, c'est...
Ouais. Mais écoutez, ce qui est ridicule, c'est que si Ryback avait eu la grandeur de Tensai, il aurait pu combler ce rôle-là, mais là, c'est... Tensai est ordinaire et tout au niveau charisme. Tu vois qu'il est capable de faire des mimiques, là, mais des fois il bouge lentement. Il a plus l'air d'une danseuse du ventre qu'un samouraï. Là. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Là. Fait que, non, écoute, je suis d'accord avec vous autres, les gars.
Puis il a assis son saut à la boutique séduction. C'est tout lissé, puis c'est pas beau. Puis... Mais en même temps, avez-vous mieux Lord Tensai ou encore voir Great Kelly?
Ah, Lord Tensai, c'est sûr. Écoute, moi, je trouve qu'à la limite, Lord Tensai va peut-être chercher plus dans l'imaginaire des enfants ou du monde, de l'univers de la WWE que Great Khali. Parce que Great Khali, à part danser pendant 5 minutes dans le ring puis prendre 20 minutes pour se rendre au ring.
Great Khali, les yeux vides. Quand il est dans le ring, on dirait que c'est pas ce qui. Oh, bon, je donne
comme tantôt, il avait même pas l'air d'être d'un beat the clock.
Je vais essayer de m'en sortir sans être trop essoufflé pour ne pas me casser les chevilles. Mais là, il a changé de saut. Mais avez-vous remarqué qu'il y a de l'eau dans la cave avec son saut? Il y a tout le temps. Ah, ça n'a pas d'allure, gars. Moi, je ne sais pas qui. Ça doit être Vince qui aime les grands gars et les clowns de cirque. Mais là, calvaire, c'est même. Moi, je suis rendu au point qu'il va arriver puis je vais faire. Moi, juste rire au lieu d'être fâché.
Oui, oui, c'est vrai. Vous avez raison, les boys. Écoutez, c'est ce qui termine. Je vais arrêter ma petite musique en arrière-scène. Et c'est ce qui termine les coups de pied dans la fourche et les wars. Merci les gars, très bon segment. On va. Écoutez, là, on va se gâter parce que je pense qu'on a eu un super PPV hier soir. Puis je pense qu'il faut en parler vraiment genre, en profondeur. Et c'est pour ça qu'on passe aux analyses en profondeur. Alors, écoutez, d'habitude, je propose à Alex certains sujets, mais. On va profiter de la présence de Marc-André pour revoir le pay-per-view Extreme Rules. Alors, je vais nommer la carte, puis je vais demander à Alex Lamoureux et à Marc-André Drouin de me dire leur appréciation de chaque match, puis de me donner une cote à la fin sur 5 étoiles du match en tant que tel. Puis écoutez, là, on a un gros 25 minutes pour ça, les gars, fait que gâtez-vous. On va commencer avec le premier match de la soirée. Je vais y aller avec Randy Orton et Kane. Alors, Marc-André, est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé de ce match-là?
Ben, en fait, ce feud-là, moi, elle m'intéressait pas vraiment à la base. J'ai trouvé ça. Écoute, Kane, il rentre en programme contre Randy Orton après Cena, puis là, il rentre avec Randy Orton, puis il dit: oh, j'ai pensé à ça tout le temps que j'étais blessé, la fois que je t'ai donné la main. Pourquoi tu t'es pas pogné contre lui quand t'es revenu? Pourquoi t'as attendu tant de longtemps que ça? Plus, ça joue avec le Cowboy Bob Orton, Paul Bearer. Je m'attendais à rien, mais ces deux gars-là réussissent toujours à nous donner un bon match quand. C'est des matchs où ce qu'ils n'ont pas montré, où, surtout du côté de Kane, parce qu'on s'entend que Randy Orton, dans un ring, même s'il est un peu robotique, il rate jamais ses moves. Jamais. Il est très flawless là-dessus. Mais hier, dans le Funk Cons Anywhere, je m'attendais à un meilleur match que ça. J'ai été déçu. Ils se sont pas servis du backstage comme je m'en attendais. Oui, ils sont allés dans l'endroit où ils disaient que les autres lutteurs écoutaient le match sur un écran géant. Ben oui, ils sont dans l'aréna puis ils écoutent ça sur un écran géant. Bravo. Mais. Là, après ça, c'est Zack Ryder qui se jette dessus. Puis j'ai pas trouvé ça écœurant. Disons que le match à Mania était de beaucoup supérieur, selon moi. Et ils se sont pas servis du Falcons Anywhere comme je l'aurais espéré. Donc, disons que ce match-là, je m'attendais à un 3-3.5, puis j'y vois qu'un 2.
OK. Alex?
Ah non, très, très, très bon match. J'en avais parlé. J'avais hâte à ce match-là, puis ils m'ont diverti. C'était cool, c'était un bon False Count Anywhere, puis c'était un bon match pour commencer le show. Hein.
Pas plus que ça?
Non, c'était correct. J'ai pas fait ah ouais, c'est malade, mais non, j'ai trouvé que c'était un bon pay-per-view opener. Là.
Ouais, pour ça, t'as raison. Pour un opener, oui, d'accord, je te donne un point là-dessus. Oui.
Puis Alex, qu'est-ce que t'as pensé du finish avec Randy Orton qui tombe sur la chaise?
Le RKO?
Ouais.
Ouais, ben ça, RKO sur la chaise, c'est pas la première fois.
Non, non, mais est-ce que Randy est tombé sur la chaise et Kane n'a jamais touché à la chaise?
C'est qu'est-ce non, que... Ah, je m'en ai pas rendu compte.
OK. Il y a le du monde sur Twitter qui revendiquait que. Ben écoute, moi personnellement, en tout cas, Pierre-Luc m'a texté, puis je l'ai remarqué moi aussi, mais Pierre-Luc m'a texté puis il m'a dit Randy Orton est tombé sur la chaise, ça n'a aucun bon sens. Puis ben, il m'a pas dit ça dans ces termes-là, là, mais il m'a dit que genre que c'était comme stupide. Puis en fait, c'est vrai, il a raison, mais au moins. Je trouve que Randy a bien vendu au moins qu'il est tombé sur la chaise. Il a
oui.
pris du temps pour vendre le fait qu'il était tombé sur la chaise parce qu'il savait qu'il était tombé sur la chaise. Puis après ça, ben, écoute, il est allé faire le tomber puis pour le compte de trois. Puis...
Ouais, son faciès, il était là comme il disait ah, je viens de me faire mal pour vrai. Là, parce que ça a sonné.
Ouais. Puis écoute, non, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je trouve que c'était un très bon opener. Puis j'ai aimé le fait que, un peu pour bouger à foule, on a fait le tour de l'aréna. C'est sûr que c'est un false count anywhere. Mais tu sais, ça a fait du bien, je trouve, de faire le tour de l'aréna en début d'événement. Comme ça a réveillé comme tous les petits secteurs dans l'aréna. C'est pour dire, hey, on est là, puis tout le monde est la caméra. Fait que tu sais, non, c'était bien. Moi, je vais aller avec
c'est qu'il y a pas qui sont pas allés dans les toilettes.
Ouais, c'est ça. Mais écoute, ouais, je suis d'accord avec vous autres. C'est vrai qu'il aurait dû avoir de quoi de plus backstage. au lieu de gosser avec Zack Ryder, là. En tout cas.
Ah,
peu
Zach.
Importe. Deuxième
comment
match.
Tuer le push que, de quelqu'un que le monde tripait.
Il a tellement perdu de son lustre en quelques instants, puis je peux même je me l'explique pas. Il l'a mal géré, peut-être.
Ben, je pense que Zack Ryder a un peu des fois le même problème que Daniel Bryan, c'est que il pense trop à qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse au lieu à simplement attendre à qu'est-ce qui se passe dans le ring puis réagir envers ça. Puis je pense qu'il est dans la mauvaise division. Je pense qu'il devrait être à SmackDown et non pas à Raw. Là, il est à Raw puis présentement il n'y a pas de rôle pour lui.
Qui ça?
Zack Ryder.
Ah ouais, non, c'est vrai.
Deuxième match de la soirée, Brodus Clay contre Ziggler, si je me trompe pas. Ça se peut que je mêle un ou deux matchs, là, mais ça n'a pas d'importance. Brodus Clay contre Ziggler, Alex?
Bof, trouvé ça plate que Ziggler perde. J'aurais peut-être pensé que ça aurait été qu'il aurait gagné, mais sur mes prédictions, quand j'ai vu ce match-là, je me suis dit que Brodus Clay gagnerait, puis j'ai eu aucun intérêt, mais c'était comme le match était à bonne place, c'était un filler pour préparer le. Tu sais, comme ils l'ont mis là pour calmer le monde un peu après le false count là.
Puis qu'est-ce que t'as pensé de la performance de Ziggler que, encore une fois.
Oh, wow, magnifique, encore son bump là, quand après le headbutt dans le ventre à Brodus Clay, là, il a fait paraître Brodus Clay comme un million là. Fait que, garde, c'est une question de temps pour Dolph là.
Oui, tout à fait. Sur 5 étoiles, tu donnerais combien à ce match-là?
Ouf. Deux, hein?
OK, c'est bon. Marc?
Ben, encore une fois, Ziggler qui perd clean dans un ring, mais comme on a discuté peut-être avant le show, il mange peut-être son pain noir pour devenir World Champ et, éventuellement bientôt, parce que ce gars-là, in-ring, il est excellent et il devrait se servir beaucoup plus de sa voix. Il est excellent au micro, c'est juste qu'on ne l'entend pas parler. C'est tout le temps Vicky qui fait tout pour lui. Là, il devrait sortir de cette gimmick-là un peu pour s'en aller plus individuel. Mais le match en tant que tel, là, c'était pas un match très, très. Il bombe bien Ziggler, mais là, Brodus Clay, il fait trois moves, il est essoufflé. Fait que c'était un bon. un 2 sur 5.
Puis Ziggler devrait. Écoute, premièrement, on peut pas y reprocher qu'il n'est pas persévérant. Puis je crois qu'il devrait se servir plus, comme tu dis, du micro, mais en étant émotif dans le personnage et non pas en étant émotif en tant que lui-même. Parce que vous souvenez-vous, il y a peut-être quelques mois, il avait pris le micro et il avait dit « Try to follow that ». Il avait crié ça. Puis ça, honnêtement, c'est hyper mal vu. Puis, tu sais, en voulant dire « Écoutez, là, je suis le meilleur, puis essayez donc de me suivre au niveau là, vous ne serez pas capable. » Même s'il pense, puis même si c'est vrai, tu cries jamais ça. T'sais, au lieu, pas les micros, sois hyper émotif, mais reste dans ton personnage, puis sors une couple de catchphrases, puis sors une couple d'affaires qui sont vraies, sans insulter trop tes collègues de travail, puis je pense que ça va passer.
Ah, c'est sûr qu'il y en a une couple qui doivent pas avoir trouvé ça cool là, quand ils fait ça.
Ben, moi, j'avais bien aimé ça. Là, c'est pas des enfants, les lutteurs, là, ils vont comprendre.
Ah.
Que c'est un...
Les lutteurs, c'est pas des enfants. Elle est bonne, celle-là.
Ben, j'espère que c'est pas des enfants. Je
ben
dis,
non, c'est une grosse, c'est des tank gros de... bébés là-là.
Non, non, je le sais en tant que tel que ça l'est, mais come on, grow up, là, je dis.
C'est pas les lutteurs, Marc-André, le pays là-dedans, là. Le monde qui l'ont mal pris, c'est Vince McMahon, c'est Kevin Dunn, c'est Triple H, c'est John Laurinaitis. C'est le monde qui tienne le pouvoir. Puis si eux autres, t'es pas dans leur bonne grâce, mais too bad.
Parce qu'à la lutte, il y a un gros système hiérarchique qui marche toujours et constamment. Puis pour passer un step, c'est faut tout le temps que tu marches tout le temps sur des yeux, qu'on va le dire, là, constamment. Puis je veux dire, aussitôt que tu fais une erreur, manque un peu de jugement, manque de professionnalisme, que tu insultes tes collègues, tu sais, genre devant tout le monde, puis que tu rabaisses, aussitôt que tu te prends plus pour qu'est-ce que t'es, je veux dire, il y a bien du monde qui vont se mettre contre toi en arrière-scène. Puis si t'as pas les bons contacts derrière toi, tu sais, mettons, prends Shawn Michaels, là, quelques années. Shawn Michaels avait tous les bons contacts à côté de lui, fait qu'il pouvait dire ce qu'il voulait. Mais tu sais, pas mal sûr que backstage, Dolph Ziggler se tient pas avec Triple H, puis qu'ils sont pas chummy-chummy.
Je comprends,
sûr.
Mais c'est quand même les bookers qui aident à builder le personnage. Ils s'attendent à ça, ils doivent s'attendre à ça.
Ouais, je sais, mais c'est quand même, je pense, honnêtement, là, Marc, je pense qu'il y aurait eu 10 000 affaires que Ziggler aurait pu dire, sauf try to follow that. Parce qu'en plus, à moins que tu sois dans une. Tu sais, je veux dire, quand CM Punk a brisé le quatrième mur, là, il l'a expliqué pourquoi il a brisé le quatrième mur, puis son explication était très bonne. Mais Ziggler, il a juste pris le micro, puis il a dit try to follow that. Il n'a pas expliqué pourquoi try to follow that. Il a pas dit, genre, il a pas pris genre 5 minutes avec une promo intense pour dire, écoutez, je me force, je fais paraître tout le monde super bien depuis 2 ans, puis on me donne jamais rien. Je suis tanné qu'on me donne jamais rien. Il a pas pété une coche comme ça. Il a juste dit, try to follow that, puis en hypocrite, il a garoché le micro, puis il est parti. Puis ça, honnêtement, moi personnellement, si j'avais été lutteur backstage, j'aurais fait, pour qui qu'il se prend, lui? Puis je pense qu'il y a moyen que ça l'a rien apporté, ça l'a rien donné à personne, ça l'a pas, ça lui a rien donné à lui, puis ça a pas augmenté la crédibilité de personne en arrière-scène. T'sais, en tout cas, de la manière que je le vois, mais écoute, je comprends ton point aussi.
Pas de problème.
Okay. C'est bon. Good. Troisième match. Écoute, oh, ben là, ça, je vais en parler là, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion sur Twitter, puis j'aimerais juste savoir si on est tous sur le même sens. Cody Rhodes et Big Show. Marc, je vais te laisser commencer par rapport au match, puis surtout par rapport au finish, à savoir qu'est-ce que tu en penses.
Ben, premièrement, je suis bien content que Cody Rhodes ait regagné le titre intercontinental. Moi, quand Big Show l'a gagné à Mania, j'ai fait « Ah oh non, il va revenir avec l'ancienne ceinture. Non, non, je commençais à pleurer chez nous. Ben, » je veux qu'il garde cette ceinture-là, même si ça revient noir, ben, noir ou blanche, mais qu'il garde le même format, oui. L'ancienne. Là. Et Cody Rhodes, on s'entend qu'il n'y avait rien à perdre dans ce match-là. Il fallait qu'il revienne champion intercontinental. Tables match. Bon. Ils ont trouvé moi, selon moi, ils ont trouvé un finish. Mémorable, comment finir ça. La face à Big Show quand il a pilé sa table, c'était, écoute, ça valait 1000$. Il est comme, oh non, j'ai-tu vraiment de piler sa table? As-tu cassé? Ah, il a cassé. Tu sais, il y a du monde qui disait que c'était un work. C'était voulu, selon moi. Là. Je veux dire, oui, la face à Big Show, c'était voulu. Puis là, l'arbitre qui n'est pas trop sûr, Cody qui n'est pas trop sûr. Écoute, le match n'était pas si bon que ça, mais il était quand même. Il y avait un bon pace. C'était quand même rapide par certains bouts. Big Show ne peut pas donner des matchs de 15 minutes. Là. Quoi que ça peut arriver des fois. Mais selon moi, là, on a eu un match de milieu de carte très bien. Cody regagne son titre. Là, il peut aller pour le World Champ en étant champion intercontinental, essayer d'avoir les deux belts, comme il avait dit, comme il ferait comme Ultimate Warrior. Continue, Cody, puis t'es dans la bonne voie.
Alex?
Ah, ben, Marc-André vient de tout dire ce que je voulais dire, dans le fond.
Alex, qu'est-ce que tu as pensé que Cody Rhodes était acclamé par la foule pendant tout le match? Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ça?
Ah, moi, j'ai trouvé ça cool, mais c'est parce que c'est les gars qui réalisent que... Tu sais, il est à Chicago. Là. Chicago fait partie d'une ville où ce qu'on peut communément appeler un smart crowd. Ouais. Et puis, quand tu as une ovation à Chicago comme ça, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Puis, qu'est-ce que j'ai aimé encore plus de ce match-là, c'est comment que le bump qu'il a pris après s'avoir fait lancer dans un Gorilla Press Slam à travers d'une table en bas du ring. Puis, il voulait pas l'aide de personne pour se relever. Puis c'est comme, il a poussé tout le monde, puis il est parti sur ses pieds, puis il a quitté. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant.
Avec l'acclamation de la foule.
Exact.
Puis êtes-vous d'accord avec moi, les gars, que c'est important dans une carrière de lutteur, quand t'es rendu à peu près à ce statut-là, de prendre une fois de temps en temps, surtout dans des rivalités, de prendre un gros bump. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui le fait super bien, puis que, tu sais, on se demande toujours pourquoi sa carrière reste au top. Triple H... Mick Foley, ces deux gars-là ont souvent pris des gros bumps pour leurs adversaires, pour leur grosse rivalité, que ce soit avec The Rock, avec Mick Foley, avec peu importe, nommez le Brock Lesnar et Steve Austin, et etc. Pour justement rajouter quelque chose au match, puis en même temps donner de la crédibilité à dire, écoute, c'est correct, c'est moi qui gagne ce feud-là, là, puis c'est moi qu'on met over, mais je vais te mettre over aussi, puis check, je vais souffrir pour toi. Tu sais, je vais un peu te donner quelque chose dans ta défaite. Puis c'était important que Cody Rhodes le fasse. Puis, tu sais, je veux dire, Big Show a super bien protégé Cody Rhodes, l'a lancé parfaitement sur la table. Puis c'était bien que Cody Rhodes prenne ce bump-là. Puis je voulais juste souligner aussi qu'il y a bien des gens qui se disaient, ben voyons, Big Show a fait par accident et tombé sur la table. Mais en fait, c'est Cody Rhodes qui a fait un drop kick sur les mains à Big Show parce que Big Show tenait les cordes avec ses mains. Puis Big Show a comme juste lâché une main puis il a mis son pied sur la table. Puis là, la table a brisé. Fait que dans le fond, c'est l'intelligence de Cody Rhodes qui a battu Big Show et non pas une erreur de Big Show.
Exactement.
Puis ça, c'est super important en lutte. C'est le méchant, il faut qu'il soit plus intelligent que le gentil pour gagner. Il faut qu'il utilise sa ruse. Puis c'est exactement ça que Cody Rhodes a fait. Je vais sauter Ryback puis le match féminin parce que je pense pas que ça vaut la peine d'en parler. Alex, j'aimerais ça que tu me parles du match Sheamus-Daniel Bryan.
C'était tout un match de lutte professionnelle. Ça a pris un an et un mois avant qu'on ait finalement le droit à un classique entre ces deux-là. Et puis, on l'a eu hier soir. C'était de toute beauté. Belle histoire, le match. Brian qui sacrifie la première chute pour endommager l'épaule et le bras de Sheamus. J'ai trouvé ça original comme tactique. Et puis le match du début jusqu'à la fin, il était de toute beauté. C'était le fun. Puis Daniel Bryan sort gagnant pareil malgré la défaite.
Oui. Oui, vas-y, Marc, je vais te laisser du commentaire.
C'est le match qu'on aurait dû avoir à WrestleMania, premièrement. Je comprends ce qu'on voulait faire à Mania, mais c'est le match que j'attendais depuis tellement longtemps entre les deux. Un brawler contre un technical, c'est toujours super bon. J'ai adoré ça. Je pourrais pas dire la seule chose que j'ai trouvé plate dans ce match-là, c'est que le bro kick, ça m'énerve un peu. Moi, ce que j'aime de Sheamus, c'est vraiment le Celtic Cross. J'adore quand il fait ce move-là. Il tente toujours, mais il réussit jamais. Je sais, ils ont-tu peur qu'il blesse les autres lutteurs? Il est quand même bon. Sheamus, il blesse pas ses lutteurs. Il fait super bien ça. Moi, j'y ferais confiance à ce niveau-là. Bro Kick, je suis un peu tanné, mais écoutez, il y avait de l'émotion dans ce match-là. À un moment donné, Daniel Bryan, il faisait comme une prise de finition. J'ai jamais vu ça, une prise de finition, de soumission avec le bras de Sheamus, puis là, ça avait l'air de souffrir le martyr. Puis après ça, il le met en pin, 1-2. Là, j'étais là, c'est bien beau ça, c'est bien flawless.
Ouais, c'est vrai que c'est une belle prise de soumission. Ça.
Ah, j'ai capoté, puis ce match-là, écoute, il a pas volé. Il était pas loin d'être du show stealer, mais il l'était pas. C'était des matchs comme ça là, à toutes les semaines.
Moi, je vais dire trois choses par rapport à ce match-là. Premièrement, j'ai trouvé qu'il était parfait. Il était bien placé dans la carte. Puis en même temps, son rôle par rapport aux autres matchs qui étaient sur la carte, je veux dire, on avait deux autres grosses storylines. Tu sais, je veux dire, il a rempli juste assez, puis en même temps, pas trop. Tu sais, je veux dire, on avait deux autres gros matchs qui s'en venaient avec Punk et Jericho, puis Brock Lesnar et Cena, puis si ça n'avait pas été de ces deux matchs-là, ce match-là aurait stylé le show. Puis je veux dire, c'était très bien. Puis en plus, c'est pas eux autres qui ont eu plus de temps pour builder une storyline. Puis la personne qui avait le plus d'impact sur l'histoire, c'était AJ, puis elle n'était pas là, puis elle n'a pas été impliquée durant le match. Puis ça, je trouve ça très bien parce qu'on va pouvoir la revoir, j'imagine, dans la rivalité entre CM Punk et Daniel Bryan. La deuxième chose que je veux dire, c'est que une petite chose qui m'énerve, c'est que je trouve que Daniel Bryan, des fois, il se pace pas assez. Des fois, il manque de souffle. Quand il donnait ses coups de pied là, sur Sheamus, à la fin, là, dans les derniers coups de pied, là, il manquait de souffle. Fait que là, tu sais, l'arbitre a comme sonné à la cloche, puis il était comme sur sa fin, coup de pied, puis il était pas mal blow-off. Écoute, tu sais, ça faisait 20 minutes qu'il luttait aussi, là. Mais tu sais, je veux dire, ça, des fois, ça m'agace un peu. Tu sais, des fois, il manque de souffle. Écoute, relax, t'es pas obligé d'aller trop vite. Prends ton temps, puis prends des pauses. Si tu sais que t'es fatigué et que le finish s'en vient, ben prends une pause, prends ton temps pour ramener Sheamus dans les cordes. Regarde la foudre, puis là, prends ton souffle, puis donne tes coups de pied, puis là, tu vas te faire disqualifier. Tu sais, juste des petites affaires là, de professionnalisme qu'on fait dans les grosses ligues, qu'on fait pas dans les indies, puis je trouve que des voix de Daniel Bryan manquent un peu là-dessus. Par contre, il s'est bien repris là, entre l'entre-deux là, quand que Sheamus a subi le premier tombé. Là. Tu sais, il a fait yes, yes avec la foule. Puis il y a un côté de la foule qui disait no, no. L'autre côté qui disait yes, yes. Fait que là, il faisait aller les deux bords de la foule. Ça, c'était super bien de sa part. Ça a permis de faire comme une espèce de juste de tampon entre les trois pinfalls. Puis ça, c'était très bien de sa part. Fait que moi, c'est ça que j'ai trouvé sur ce match-là. Puis je donnerais là un 4 étoiles pour... je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, là.
Ouais.
Ouais, je suis pas mal d'accord. Mais avez-vous trouvé pendant cette feud-là, la seule chose que j'ai trouvé, c'est que Daniel Bryan, il était comme plus gros que la feud en tant que tel. Je sais pas comment l'expliquer. C'était pas super bien buildé. Daniel Bryan était comme trop gros.
Mais c'est parce que là, le WWE, présentement, était pris avec le fait des yes. Tu sais, les yes, ça a été une bonne chose pour Daniel Bryan, mais en même temps... Dans le personnage, c'est que. Tu sais, ça permet à dire à WWE, là, écoutez, là, laissez pas partir ce gars-là, OK? Mais là, le phénomène a grossi des yes. Puis là, le WWE, en même temps, essaie de garder Daniel Bryan heel. Puis essaie de continuer le mouvement yes pour vendre de la marchandise par rapport à ça. Fait que là, tu sais, je veux dire, comme Daniel Bryan, à sa défense aussi, il est comme pris entre deux chaises. On sait pas ce qui. Tu sais, est-ce qu'on va essayer de virer les yes de manière méchante? Est-ce qu'on va le virer face? Toi, Alex, tu penses de quoi là-dessus?
Je sais pas, je suis comme... vraiment
c'est dur à dire, hein?
Très dur à dire, dans le sens que je me demande s'ils vont pas le turner face dans la feud avec CM Punk.
Ah, faut pas, parce que Daniel Bryan...
Non, faut pas.
Il est capable d'être encore plus vicieux. Je me souviens de certains matchs dans ROH, il est encore capable d'être encore bien plus vicieux qu'il est là.
Ouais.
C'est vrai, mais... Je pense pas qu'ils vont le faire, mais je serais pas surpris qu'ils le fassent.
C'est parce que le WWE sont pris entre le marketing puis le lutteur en tant que tel. Puis là, c'est sûr que le marketing va avoir une grosse influence. C'est sûr que le marketing va... C'est ça qui va jouer le plus, parce que le but de la WWE, c'est de vendre des produits dérivés puis de faire de l'argent. Fait que, tu sais, je veux dire, ils veulent pas, je pense pas qu'ils veulent laisser pourrir le mouvement Yes si ça vend des t-shirts. Puis au nombre de pancartes qu'il y a dans les estrades, je pense qu'il y a moyen de faire marcher la chose un peu plus que ça.
Ouais, en tout cas, d'accord.
On va y aller avec Punk versus Jericho. Je vais laisser aller Marc-André là-dessus. Moi, ça a été pas mal mon match préféré de la soirée. Je sais pas si vous êtes tous d'accord là-dessus, mais vas-y, Marc-André, je te laisse aller savoir ce que tu penses là-dessus.
Oui. Comme les Extreme Rules dernièrement, c'est toujours pratiquement dans les dernières années, les matchs qui ont Extreme Rules, c'est comme les revanches de WrestleMania. On a eu ça dans les dernières années. Et surtout qu'à Mania, j'étais sûr qu'on était pour avoir un 5-star match entre Punk et Jericho. On a eu un bon match à Mania, mais celui d'hier soir, là, c'était... Ils sont arrivés dans le ring là, à vouloir se dévisager avec leurs poings. C'était... Il y avait une rage à l'intérieur des deux lutteurs. Les deux in-ring, il y avait une émotion. Quand il est allé... là, ça jouait avec la sœur de Jericho. La sœur de Punk. Et la sœur de Punk qui gifle Jericho le monde. Ouais, puis écoute, il y avait de l'émotion. Les moves étaient parfaits. Le pacing, la rapidité, tout était parfait. C'était violent. C'était assez violent. Il y a eu des beaux mots. Jericho, quand il parle à un lutteur dans le ring, là, c'est la plus belle chose à voir. C'est comme... on dirait qu'il se dit, je vais vous montrer comment ça marche d'un ring. Là. Puis on dirait qu'il veut le montrer, puis il parle, puis il est intense. Puis écoute, c'était magique. Je sais pas quoi dire de plus. C'est deux lutteurs que j'apprécie énormément. Puis là, il me donne ce match-là. Malheureusement, la seule chose que j'aime pas en ce moment à la E, c'est que, selon moi, en tout temps, sans aucune exception, le main event doit être pour le WWE Championship. Donne-moi pas aucune autre raison, même si c'est vendeur, je m'en fous. Le main event.
Plus maintenant, Marc-André.
Non, je sais que c'est plus maintenant, mais j'aimerais ça que ça revienne comme ça.
Ça reviendra plus jamais comme ça parce que la ceinture ne veut plus absolument rien dire.
T'as raison, c'est plate, mais c'est comme ça. Ça devrait unifier les deux titres.
Alex, donne-moi donc tes moments favoris de ce match-là.
Ah, wow! Plein de choses. Premièrement, le fait que les deux ils étaient en jeans, c'était comme ils prenaient ça vraiment au sérieux.
Tu peux-tu expliquer pourquoi que les gars étaient en jeans?
Ben, les gars, ils étaient en jeans parce que, premièrement, c'est un street fight, puis ouais. Deuxièmement, c'est... je sais pas s'il y a d'autres raisons.
C'est la culture du street fight, c'est-à-dire que dans toute rivalité, lorsqu'un street fight est donné, il y a comme une loi non écrite que, écoute, ça a parti de... Écoute, c'est les lutteurs des années 90, fin 80, début 90.
Je sais que Shawn et Triple H l'ont fait à SummerSlam 2002.
Piper et Goldust l'ont fait à WrestleMania, je pense que c'est 12 ou 11. Je veux dire, à la WCW, on a souvent vu ça.
Il n'y a pas eu un Edge contre Shawn Michaels d'un Raw, m'amener aussi?
Oui, mais c'est ça. C'est une loi non écrite que quand tu es dans une rivalité puis que la rivalité est à son paroxysme puis que tu es quasiment comme soit dans le milieu ou dans la fin de la rivalité, quand tu as un street fight, tu es... obligé de ce qu'on se mette en jeans puis que tu te battes en jeans.
J'ai trouvé ça vraiment cool que les deux gars soient en jeans. Quand que Jericho narguait la sœur à Punk, le look sur la face à Jericho, il a explosé. Le flying elbow à travers la table des commentateurs, c'était fabuleux. Le cold breaker sur la chaise, le vrai Walls of Jericho.
L'instincteur, ça c'était pas pire, ça pareil. Hey, l'instincteur.
les coups dans le ventre avaient l'air de faire mal avec l'instincteur, hein, c'était.
Moi c'était le fait que Punk a réussi comme aller à gripper l'instincteur à l'extérieur du ring pendant qu'il était en Walls of Jericho, puis qu'après ça il se retourne. Le seul mouvement qui reste, c'est genre de qu'être capable de virer un petit peu son dos, genre c'est cold, puis là Dredd Jericho se revire en même temps puis paf dans la face d'une shot. Il n'y a pas eu comme, des fois ça arrive que les lutteurs sont pas capables de partir l'instincteur, c'est comme ça s'est fait.
Non, c'est vrai ça,
le timing était excellent. Puis ça, c'est...
j'ai bien aimé aussi les shots shot de Kendo Stick. Même Jericho a posté une photo de son dos sur Twitter qui était assez magané, merci. Puis j'ai aimé quand Punk a failli tomber avant le elbow, tu sais, mais il s'est bien repris, tu sais, il a comme fait « OK, OK, on va être capable
». Ouais, non, écoutez, moi, honnêtement, là, pour le concept, la rivalité, moi, je vais donner un 4.5 à ce match-là, même un 4.8. Sur le bord du 5 étoiles, là, je te dirais que il manquait un petit quelque chose, je sais pas quoi, là, mais écoute, c'est quasiment un 5 star, quasiment.
Quasiment. Pour
le concept, le fait que la foule est investie.
Je te dirais, Max, peut-être les 10 premières minutes du match étaient comme... c'était bon, mais ça n'a pas parti en fou le début. Fait que c'est peut-être ça qui fait que c'était pas un 5 star.
Mais j'ai aimé, de la manière... La foule était vraiment dedans pour ce match-là parce que t'avais le héros local, puis Jericho jouait son rôle de
Ah, mais vois-tu, j'ai trouvé que la foule, puis même beaucoup de gens aussi sur Twitter, puis sur les sites internet, ont trouvé que la foule n'était pas aussi intense que... la Money in the Bank.
C'était spécial, la Money in the Bank, là.
C'est deux contextes différents aussi.
Ouais, c'était magique, là.
Écoutez, pour terminer le dernier match de la carte, Alex, tu vas me commencer ça, Brock Lesnar contre Cena, parce que tu m'as fait une réflexion intéressante ce midi. Tu m'as texté comme deux messages textes qui disaient deux choses différentes, parce que comme tu m'as texté que la première... Dis-moi c'était quoi était ta première réaction, puis après ça, à quoi t'as pensé puis à quoi t'as réfléchi.
Mais le match était juste trop épique, là. C'était jamais vu dans WWE, de la violence gratuite comme ça, des vrais coups de coude. Brock Lesnar qui fait une tentative de suicide par-dessus la troisième corde. c'était violent, c'était extrême, c'était tout. Ça l'a vraiment... Pardon?
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de sang. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de rythme-là ou de structure de match-là.
En parlant de sang, juste pendant les entrées, un de mes amis nous demande, il dit, on va-tu voir du sang à soir? Là, moi et un autre de mes amis, on dit, mais non, on verra pas de sang à soir. Voyons donc, là, c'est PG, nanana. Fait que finalement, on a eu après même pas 30 secondes que le match a commencé, là, tu sais. Puis j'ai bien aimé, mais sauf que j'ai été comme déçu que, Cena, il a battu Brock. Mais quand je me suis couché, j'ai repensé. Puis, dans le fond, Brock ne sort absolument pas perdant de ça parce qu'il reste le badass qui est, dans le sens que le gars, genre, ça a pris un coup de chaise, un coup de chaîne avec un AA sur les marches en métal. Fait que, tu sais, n'importe qui, là, présentement, Brock, il bat n'importe qui haut la main dans le roster, que ce soit CM Punk ou Sheamus, il mange tout rond.
Puis Brock a tellement démoli Cena dans les 10 premières minutes
Il l'a tué. Fait que, puis,
ça faisait peur.
Ben c'est ça, puis je me suis dit que j'ai beaucoup de respect pour Cena parce qu'il était pas obligé de manger une volée comme ça. Là, ils ont sûrement demandé avant s'ils voulaient être sûrs qu'on prenne cette direction-là avec ce match-là. Puis il a été un gars de compagnie, puis il a fait son yes man, puis c'est pas tout le monde sur ce roster-là qui serait prêt à manger des volées comme Cena en a mangé une hier. Là. Pas sûr que si Brock embarque d'un programme contre Orton va vouloir se faire péter de même. Là.
Ouais.
Fait que garde, j'ai beaucoup plus de respect pour Cena maintenant. Et puis, c'est sûr qu'il va toujours avoir des petites choses qui vont me fatiguer sur lui, mais il a mon respect, ça, c'est sûr et certain, parce que jusqu'à temps que quelqu'un mange une volée comme lui a mangé hier, là, regarde, c'était le fun.
Oui, écoute, tout à fait d'accord. Amen là-dessus. Marc, vite.
Ben, c'est vrai.
Oui, exactement. C'était un match, comme tu disais. Moi, j'ai beaucoup de respect maintenant pour Cena. J'en ai toujours eu, mais là, encore un petit peu plus, il s'est donné à fond. On dirait que... Moi, je vois un peu ça, la conversation backstage. Je disais à soi, je t'en donne des vrais. Il dit, oh, donne-moi-en, on donne le show. Moi, c'est de même, je vois ça. Là. C'est peut-être pas même que ça se passe. Là.
Mais ça se passait pas mal de même.
Mais écoutez, ils ont donné un show. Ils se sont pas retenus sur rien. Comme vous le savez, je suis un fan de la vieille ICW. Puis moi, j'ai eu autant de fun à regarder ce match-là qu'un match Mike Awesome, Masato Tanaka. J'étais dedans. J'étais, ah, taboy, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se faire? Quel move il va faire? Il va-tu y faire une powerbomb sur les escaliers du ring? Qu'est-ce qui va se passer? Et je ne savais pas ce qui s'en venait. Je ne savais pas qui gagnerait. Je ne savais pas ce qui s'en venait. Je ne savais pas où ce qui s'en allait. Puis ils m'ont surpris. C'était pas le match le plus, sans faille au niveau des mots.
Mais c'est ça qui
était le fun. C'était violent. Il se laissait aller totalement. C'est fuck, désolé, merde les conventions de la lutte, là. C'est on se bat, puis on se bat.
Moi, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était la shape de Brock, puis comment il s'est présenté, parce qu'on se demandait s'il prenait vraiment ça au sérieux, parce qu'on sait que Brock, dernièrement, a eu une maladie grave.
Oui.
Il a eu son dernier combat UFC qui a été un flop monumental. Depuis ce temps-là, il y avait des rumeurs qu'il allait pas au gym, puis qu'il s'avait comme fait « fuck it ». T'sais, moi, regarde, je suis Brock Lesnar, je suis riche, j'ai 34 ans, puis je n'ai rien à foutre. T'sais. Puis j'ai trouvé qu'il était en shape pas mal, puis il n'y avait aucune rouille. Il a sué beaucoup, mais Brock, on se rappelle que Brock, c'est quelqu'un qui sue de toute manière comme un cochon dans tous ses matchs. Fait que, j'ai trouvé qu'il était très en shape, puis c'est une question de temps avant qu'il reprenne la forme du gars musclé qu'on connaît. Il reviendra peut-être plus jamais le gars musclé qu'on a connu à cause du fait de la maladie qu'il a, parce que c'est une maladie qui traîne encore. Mais écoute, très bon cardio, puis écoute, ce gars-là, c'est une machine. C'est pas compliqué, c'est une machine, ce gars-là, là.
Oui.
Il est trop.
C'est comme ça qu'il est vendu présentement. Il est la machine de la WWE.
C'est comme le Draco de la WWE. La foule de Chicago, ils ont fait exactement comme les Russes ont fait dans Rocky IV. Il était contre Cena au début, puis à la fin, il prenait pour lui. C'est comme la foule a switché de base. C'était vraiment cool là, comme moment hier. Là.
Vraiment un beau crescendo comme pay-per-view.
Oui.
C'était très...
J'ai hâte de voir ça va être qui le prochain adversaire à Brock, parce que je sais que c'est sûr que... pas tout de suite. Brock, on va le voir lutter avant SummerSlam. Là.
Je veux pas que ça soit contre Orton. Ça me tente pas, mais vraiment pas.
Mais c'est parce que si c'est Triple H, ça sera pas SummerSlam, parce que là, on va voir Brock cet été. Là, on le verra pas juste à SummerSlam. Fait que, il va falloir qu'il y ait un adversaire qui entre le programme contre Triple H, là, il va falloir qu'il trouve quelqu'un à bûcher ou je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir aussi comment qu'ils vont le ramener. En tout cas, il y a plein de choses qui... Combien de temps ça va prendre aussi? Non, c'est le fun. Brock apporte un aspect le fun et nouveau présentement qui rend la chose pas mal intéressante.
Oui, puis c'est parfait pour l'été qui s'en vient. Ça nous prend quelque chose d'excitant pour passer l'été. Habituellement, c'est flat, ça lutte. Mais ben, là,
le mois de mai, surtout, il est atroce à tous les années. Le mois de mai, la WWE ont extrêmement de la misère avec mai et juin. Cette année, ils sont sur la bonne voie pour le mois de mai. Puis juin, qui viennent de changer le concept du pay-per-view. Il y a 2 ans, on a eu Fatal 4-Way. L'année passée, on a eu l'atroce Capital Punishment. Cette année, on a le retour de No Way Out. Ils vont être des matchs en cage.
De là, l'arrivée du Money in the Bank dans ces mois-là pour...
Ouais, juillet, c'est parfait. Puis maintenant, avec No Way Out, qui va nous donner un...
des matchs de cage.
Moi, j'aurais aimé le retour du King of the Ring, mais le Money in the Bank est le King of the Ring des temps modernes des années 2000.
Oui,
ouais, exactement.
Les gars, je vous arrête là-dessus. Très belle discussion, mais j'aimerais, étant donné que je veux pas que le show dure 2 heures, je vais vous arrêter là-dessus, mais écoute, c'était des très belles conversations et des très bons arguments de part et d'autre. Très agréable de jaser avec vous là-dessus. On va passer au dernier segment de l'émission, qui sont les médias sociaux. Dans les médias sociaux, écoutez les gars, moi je veux simplement remercier les gens sur Twitter qui ont tweeté durant le PPV Extreme Rules. Il y a Freddy Tornado, Dina 7810, qui d'ailleurs a envoyé les liens pour inscrire, pour que Brett The Hitman Hart gagne, soit maintenant admis au Hall of Fame des superstars.
Le Walk of Fame.
Ouais, le Walk of Fame. L'espèce de trottoir un peu comme hollywoodien, mais au Canada. Là. Alors, moi, j'ai voté, puis je suis très fier de mon vote, parce que je pense que c'est une bonne chose. Puis je pense que Bret The Hitman Hart devrait être considéré comme une légende, une superstar canadienne. Doit être remémoré comme une des plus grandes superstars du Canada. Il y a Frenchie Jenny, Rated RD90. Yass Simmons, excusez pour la prononciation là, parce que des fois c'est pas trop évident de la manière que c'est écrit. Winge, Sylph, puis King Kun 47. Je veux juste remercier ces personnes-là parce que vous avez eu des tweets quand même assez incroyables durant le PPV. Puis je voulais juste dire que mon tweet préféré durant Raw a été Monsieur Quentin Salès, et son tweet a été Yes, Brian versus Punk. Yes, tu l'as dans le cul, Orton.
écoutez, moi, ça m'a fait bien rire. Fait que je l'ai juste mentionné.
Je comprends pas, là, tu l'as dans le Q Orton.
Ouais, juste bon. Parce que je pense que pendant que Randy Orton était assis devant la TV, tu sais, puis... C'était comme okay. Juste... J'imagine que la personne n'aimait pas Randy Orton, et excusez pour le langage vulgaire, mais moi, c'est juste des fois les petites quotes comme ça, un peu extrémistes, ça me fait bien rire. Alors, je voulais juste remercier ces personnes-là. Puis en terminant, je voulais juste dire un gros merci à fnlutte.com pour nous partager sur les divers médias sociaux. Il y a une application pour iPhone qui s'en vient bientôt. Et comme vous le voyez sûrement sur mon compte Twitter, mes abonnés commencent à monter. Si je me rends à 1000 abonnés, là, je vais faire participer 5 personnes. Je vais prendre 5 personnes dans mes abonnés, puis je vais les amener sur le show avec moi puis Alex pendant 5 semaines consécutives. C'est-à-dire, ben, je vais alterner, je vais choisir 5 personnes, puis une personne pendant une semaine va venir faire le show, la deuxième personne, la troisième personne, la quatrième personne. Fait que si je me rends à 1000 abonnés, là, je vais prendre 5 abonnés au hasard, puis ils vont venir faire le show avec moi puis Alex, ceux qui sont intéressés. J'aimerais bien ça me rendre à 1000 abonnés, comme ça je pourrais peut-être essayer de faire compétition un petit peu à Pierre-Luc. C'est pas mal ça, oubliez pas de faire un petit j'aime sur notre page Facebook. Vous pouvez trouver notre espèce de show sur Facebook en tapant FN Lutte en un mot, radio en un autre mot. Faut aussi ne pas oublier de mettre le lien iTunes pour ceux qui ont iPhone ou qui ont des iPod Nano ou qui ont des iPod Touch. Il y a le lien iTunes qui est sur mon Twitter, vous pouvez aller cliquer là-dessus pour vous enregistrez sur le compte de iTunes. Puis, si vous avez des questions, F comme dans famille, N comme dans Nadine, lutte, L-U-T-T-E, radio, R-A-D-I-O, A-commercial, hotmail.com. Si vous avez des commentaires, des questions, n'importe quoi, ça peut être constructif, ça peut être négatif, on vous demande juste de rester respectueux. Et nos Twitter, en terminant, mon Twitter, c'est le NewTownRat, N-E-W-T-O. WNRAT. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Si vous me suivez, moi je vous follow back. Fait que ne vous gênez pas. Le Twitter à Lamou, c'est @lamou420 L-A-M-O-U 420. Et Monsieur Drouin, votre Twitter, on peut vous rejoindre à
M-A Drouin. C'est facile, Marc-André Drouin. Donc M-A Drouin, tout simplement.
Alors, c'est ça, si vous voulez poser des questions à Marc-André sur le show de cette semaine, comment il a trouvé d'être en compagnie de moi et Alex, allez-y fort. Et c'est ce qu'on... Oh, tabarouette, il commence à être tard, hein? C'est ce qui complète l'émission de cette semaine. Alors, merci à tous, merci à Marc-André, merci d'être venu sur le podcast. J'apprécie énormément que tu sois venu faire l'émission. J'espère que tu t'es amusé.
Ça fait plaisir, c'était très agréable.
Excellent. Et je vous laisse, comme d'habitude, sur le mot de la fin de mon co-animateur favori, Monsieur Alex Lamoureux.
It's still real to me, damn it!
Yes! Yes! Yes!